sur Radio Cartable LFIGP pour la première émission de 2016. Et maintenant, le sommaire de notre émission.
Il y a d'abord la rubrique Actualité en arabe, ensuite la rubrique Geek avec l'Overboard, juste après la rubrique Cinéma avec Star Wars 7, et puis l'interview du fameux Maître Gims.
La rubrique Histoire des arts avec Victor Hugo et son fameux livre Les Misérables
sera avant la rubrique musicale qui va nous parler de la carrière de Charles Aznavour que nous retrouvons dans l'interview juste après.
Dans la rubrique littéraire en anglais, nous verrons Charlie and the Chocolate Factory et pour finir, Micro-trottoir.
Dis Jalil, est-ce que tu regardes souvent les informations à la télé ?
Non.
Eh ben ça tombe bien, parce que tout de suite, la rubrique Actualité en arabe.
وقع حريق هائل يوم الخامس 31 ديسمبر 1919 في الفندق الفاخر دي أدريس أصيب فيه 26 شخص بإصابة منها 14 خفيفة تم إجلاء الجميع واستمرت احتفالات السنة الجديدة بعد أسابيع من الحريق صرحت الشرطة أن الحديث عابر وأن البناية الواقعة قرب برج خليفة سليمة.
يوم الاثنين 22 يناير حصل للاعب ليونيل ميسي على الكرة الذهبية لخامس مرة وعمره 28 سنة. هدف ميسي هو أن يكسب كأس العالم لسنة 2018 مع بلده الأرجنتين.
هذا عالم غريب، في بعض الدول الأفريقية تستخدم النحل لإغاثة الفيلات التي تهاجم الأراضي الزراعية. ترتكز هذه البرامج على إبعاد الفيلات من الحقول التي قام بزراعتها الإنسان باستخدام النحل لإغاثتها. تطن الحشرات بصوت عالي وإن احتاجت تلسعها.
اليوم 8 مارس عملية مواجهة ترشد الشباب لحسن استعمال الشبكة المعلوماتية. أكثر من 100 بلد من مختلف أنحاء العالم يشارك في هذا المشروع المسمى باليوم المعلوماتي الأمني Safer Internet Day. منذ سنة 2005 هذه العملية التي بدأت منذ شهر فبراير تساعد الأطفال على حسن استعمال الشبكة المعلوماتية وهي وسيلة نافعة إذا أحسن استغل لها. فهؤلاء الأطفال مدعوون لاكتشاف كل ما يفعمهم من خلال هذه الشبكة والتعرف أيضا على أقطارها. هذه السنة الموضوع كان عن التشفير المعلوماتي.
Que d'événements! Ce n'était pas facile pour nos reporters.
C'est quoi ça?
C'est un overboard.
Je peux l'essayer?
D'accord. Et pendant que tu l'essayes, c'est la rubrique Geek avec l'overboard pour nous en parler.
Le
nous allons vous parler des hoverboards, une sorte de skate électrique qui fait fureur chez les jeunes.
L'origine de cet appareil. Shin Chen, un homme d'affaires américain, serait le premier à en avoir déposé le brevet d'invention, mais les Chinois le lui contestent. Shin Chen dit qu'il a été copié après son apparition aux États-Unis dans le courant de l'année 2013.
Le dispositif est contrôlé par les pieds du pilote, debout sur le gyroscope intégré, plaquette de capteur. L'utilisateur doit se pencher légèrement vers l'avant pour avancer et en arrière pour freiner. Lorsque l'on veut tourner à droite ou à gauche, il suffit d'appuyer plus fortement sur l'un des deux pieds.
Pourquoi l'utilise-t-on ? Pour se déplacer, évoluer librement sans se fatiguer, pour aller n'importe où, juste pour s'amuser avec ses copains et faire des courses. Il est surtout populaire chez les jeunes, mais il n'est pas rare de voir des adultes dessus.
Au début, il n'y avait pas de règles, mais à cause du nombre d'utilisateurs et d'accidents, ils sont interdits de plus en plus, comme dans les malls par exemple. Dangereux ? Oui, car si on charge trop la batterie, l'engin risque de surchauffer et de prendre feu. D'ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont refusé les hoverboards dans leurs avions. Aussi, si on va trop vite avec l'engin, celui-ci émet une alerte et on risque de chuter. Et enfin, surtout ne pas rouler dans l'eau.
Voilà, le sujet est clos. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas mieux qu'une véritable activité physique pour se dépenser.
Ça va, tu t'es pas fait mal ?
Non, ça va. Est-ce que tu as vu le nouveau Star Wars ?
Non, il paraît qu'il est bien.
Eh ben, justement, on en parle là, dans la rubrique cinéma.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Star Wars, épisode 7, Le Réveil de la Force. Ce film a été coécrit et réalisé par J.J. Abrams. Il est sorti en décembre 2015.
C'est le 7e épisode de la saga Star Wars. C'est en fait la suite de l'épisode 6, Le Retour du Jedi, 32 ans après la sortie de celui-ci. Ils mettent en scène les personnages de la première trilogie. Princesse Leia, Han Solo, Luke Skywalker et Chewbacca, ainsi que les nouveaux personnages de la nouvelle génération, Rey, Finn, Poe Dameron et le maléfique Kylo Ren.
Cet épisode a été produit par les studios Lucas, mais a été distribué par Disney qui a racheté la licence d'exploitation de la série. Le budget est de 200 millions de dollars. Le film a été tourné à Londres, mais quelques scènes ont été tournées dans le désert d'Abu Dhabi. Au niveau des acteurs, Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill ont repris le rôle 32 ans après. Se sont ajoutés Daisy Ridley, John Boyega et Adam Driver.
Qu'est-ce que Star Wars ? Star Wars est un univers de science-fiction créé par George Lucas en 1977. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la Force, pouvoir bénéfique et défensif. Pour maintenir la paix dans la galaxie, les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur, pour leurs usages personnels et pour dominer la galaxie.
Pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, nous ne vous donnerons que quelques informations sur le début, car sinon vous n'aurez plus de surprises. 30 années après la destruction de la seconde étoile de la mort, Luke Skywalker, dernier Jedi en vie, a disparu. Le premier ordre, né des ruines de l'Empire galactique, fouille la galaxie pour le retrouver. Tout comme la Résistance, une force militaire défendant la Nouvelle République. À la tête de la Résistance se trouve la sœur jumelle de Luke, la générale Leia Organa.
Poe Dameron, le meilleur pilote de la Résistance, est envoyé sur la planète Jakku pour mettre la main sur une carte permettant de localiser Luke. Damoro récupère la carte, mais son village est attaqué par les troupes du Premier Ordre, menées par le capitaine Phasma et Kylo Ren, un puissant guerrier qui utilise le côté obscur de la Force avant de se faire capturer. Dameron dissimule la carte dans un droïde BB-8 qui s'échappe à travers les dunes de la planète désertique et tombe finalement sur une pièce d'épave solitaire Rey. C'est le début à l'heure d'une grande aventure, comme les auteurs de Star Wars savent si bien le faire.
Alors prenez vos sabres laser, montez dans votre vaisseau et c'est parti.
La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. Vous avez ce pouvoir, vous aussi.
Pendant la rubrique cinéma, j'ai pensé à un chanteur. Tu sais sûrement qui c'est.
Maître Gims.
Comment t'as su?
Ben, c'est normal, c'est le roi du rap.
Ça tombe bien. Tout de suite, l'interview de Maître Gims.
Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable à l'FIGP. Nous sommes aujourd'hui en direct du studio avec Maître Gims, à quelques heures de son concert exceptionnel au Strait Center de Dubaï. Maître Gims, bonjour et merci de nous accorder un peu de temps pour cette interview.
Bonjour, bonjour à tous. Merci. Merci à vous de m'accueillir.
D'où vient votre nom de scène?
Alors mon nom de scène, il vient de... Je me suis un peu inspiré... Avec le maître, Maître Gims, ça fait un peu penser aux films d'arts martiaux. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les films de combat, de karaté. Il y a toujours un maître quelque part. Donc j'aimais bien. Et Gims, je m'appelle comme ça un peu depuis que je suis tout petit.
Comment êtes-vous devenu chanteur?
Alors, j'aime beaucoup la musique, j'ai toujours aimé la musique. Mon père faisait de la musique, il en fait toujours. Donc j'ai toujours eu ce rapport-là avec la musique et un jour j'ai rencontré des copains et on a décidé de faire un groupe qui s'appelle la section d'assaut. Donc c'est venu comme ça et petit à petit on s'est fait connaître, etc.
D'où vient votre inspiration pour composer vos chansons?
Bon, l'inspiration, ça vient de... ça peut venir de partout, hein. Il n'y a pas de règles. L'inspiration, ça peut venir en écoutant autre chose, ça peut venir en regardant des choses. C'est très vaste.
Pourquoi vous n'enlevez jamais vos lunettes?
Parce que je me cache un peu, ça me permet de me cacher de quand je suis dans ma vie privée, que j'ai envie d'enlever mes lunettes, bah, les gens me reconnaissent un peu moins sans mes lunettes. Quand je les mets, c'est vraiment le personnage. Et quand je les enlève, on me reconnaît un peu moins.
Vous parlez de sable dans l'une de vos dernières chansons. Comment choisissez-vous les vôtres?
Alors les sapes... Bon, il y a toujours un effet de... Il y a toujours un peu les tendances, la mode, tout ça. Moi, j'aime beaucoup les vêtements. C'est vraiment quand j'aime bien quelque chose, quand c'est un coup de cœur. Je choisis vraiment ce que j'aime, quoi. Vraiment.
Avez-vous le trac avant de monter sur scène?
Le trac, ça peut arriver, hein, ça dépend. Quand c'est une nouvelle scène, c'est un nouveau public, tu peux avoir un peu de trac. Tu peux avoir un peu de trac, tu sais pas trop comment les gens vont réagir, etc. Et c'est important, c'est normal d'avoir le trac, c'est positif.
Pouvez-vous nous dire quelques anecdotes sur Uni en tournée?
Des anecdotes en tournée? Bah une fois, il y en a plein. Une fois on a fait un concert à Paris avec la section d'assaut et dès le début du show, dès le début du concert, il n'y avait plus d'électricité, coupure de courant. Dès le début. On était tous dans le noir total pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. C'était un cauchemar, ça.
Nous avons pu lire que chanteur n'était pas votre seule activité. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites également?
Je produis aussi des artistes. J'ai une ligne de vêtements. Et pour le moment, c'est vraiment les deux autres grosses activités que j'ai à côté. Je produis d'autres artistes, j'ai une ligne de vêtements.
Quelles sont vos passions en dehors de la musique?
En dehors de la musique, j'aime beaucoup la mode, justement. Tout ce qui a un rapport avec la mode, avec le graphisme, la communication graphique, le cinéma, j'aime beaucoup ça.
Et pour finir, c'était comment votre CM2?
Ma CM2? Ah, je m'en rappelle un peu. Hein. Avec Monsieur Rollin. Il s'appelait Monsieur Rollin, mon prof. Monsieur Rollin, il était assez marrant. La CM2, c'est assez spécial parce que juste après, il y a la 6e, donc on est tout excité, etc. Et j'ai plutôt des bons souvenirs. J'ai plutôt des très bons souvenirs de la CM2. Et de la primaire, d'ailleurs. Je me rappelle assez clairement de pas mal de choses.
Maître Gims, merci pour cet entretien. Nous, on va se saper comme jamais pour venir à votre concert. Longue vie à vous et hasta luego.
Merci, hasta luego.
Moi, j'aime bien la musique de Maître Gims.
Moi aussi, j'aime Maître Gims, mais je préfère ce livre.
Victor Hugo ?
C'est ça. J'aimerais bien en savoir plus sur lui.
Tout de suite, la rubrique Histoire des arts avec Victor Hugo et son livre Les Misérables.
Bienvenue dans la rubrique Histoire des arts. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Victor Hugo. Victor Marie Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, c'est un poète, écrivain et un homme politique français du 19e siècle. Il est considéré comme le plus important des écrivains romantiques de la langue française. En 1841, il est élu à l'Académie française. Ses œuvres sont très diverses, romans, poésies, pièces de théâtre. Ses romans les plus connus sont « Les Misérables », 1862 et Notre-Dame de Paris, 1831. Il est également connu pour être un écrivain très engagé. En 1848, il devient député de Paris. En décembre 1851, il s'oppose à la dictature de Napoléon III et doit vivre en exil jusqu'à la fin du Second Empire, en septembre 1870. Il meurt à l'âge de 83 ans. Et est enterré au Panthéon lors d'obsèques nationales du 31 mai 1885. L'enfance et la formation de Victor Hugo. Victor Hugo est le fils d'un général d'Empire que Napoléon fait raconte. Avec sa mère et ses frères aînés, il suit son père dans les pays où combattent les armées napoléoniennes, l'Italie et l'Espagne. Victor Hugo entre comme interne dans une pension parisienne et suit les cours du lycée Louis-le-Grand à Paris, de 1815 à 1818, où il compose ses premiers poèmes. En 1822, il épouse Adèle Fouché. Ils auront 4 enfants, Léopoldine, 1824, Charles, 1826, François, 1828 et Adèle, 1830.
Victor Hugo est à la fois un poète, un dramaturge et un romancier. Il a également peint. Il est le chef du mouvement romantique en France. En 1829, Hugo publie Les Orientales, recueil de poèmes dont la préface défend la liberté d'inspiration. La même année, il publie un roman humanitaire, Le dernier jour d'un condamné, et un drame Marion de Lorme, qui sera interdit par la censure royale jusqu'en 1831. Le 25 février 1830, il arrive à faire jouer par la troupe de la Comédie française, Hernani, un drame qui va déclencher le scandale, les spectateurs se battent dans la salle. Le camp de la jeune France, favorable au romantisme, mené par Théophile Gautier et Gérard de Nerval, s'en prend aux perruques, qui refusent le drame romantique. Cette bataille d'Hernani fait de Victor Hugo le chef du mouvement romantique. Depuis 1827, il réunit dans son salon, appelé le Cénacle, une grande partie des écrivains romantiques comme Balzac, Dumas, Mérimée, Sainte-Beuve, Gautier, Nerval, Vigny. Victor Hugo continue son œuvre littéraire. En 1831, il publie le roman Notre-Dame de Paris et Les Feuilles d'automne, un recueil de poèmes. Le 4 septembre 1843, sa fille Léopoldine se noie dans la Seine à Villequier, près de Rouen. Hugo est inconsolable et arrête sa production littéraire.
Le drame familial qui vient de le toucher éloigne pour un temps Victor Hugo de la littérature et le pousse vers la politique. Le poète doit éclairer le peuple et annoncer l'avenir, car il est guidé par la vérité. Au début de sa carrière politique, Victor Hugo soutient la monarchie des Bourbons. Pendant la Deuxième République française de 1848 à 1851, Hugo est élu député de Paris à l'Assemblée constituante, puis à l'Assemblée législative. Au moment du coup d'État du 2 décembre 1851, qui va donner naissance au régime autoritaire de Napoléon III, Victor Hugo appelle les Parisiens à la résistance et au soulèvement armé contre le nouveau pouvoir. Il doit s'enfuir et s'exiler. Victor Hugo séjourne à Guernesey dans les îles anglo-normandes. Il devient un opposant politique. Il compose les châtiments où il attaque l'empereur.
En 1856, il fait paraître les Contemplations, recueil des poèmes écrits à diverses périodes depuis la mort de sa fille Léopoldine. En 1862, paraissent Les Misérables, immense roman social et politique. Sa production littéraire continue en 1874. Il fait paraître un roman historique, 93, qui décrit la Révolution française. Victor Hugo meurt le 22 mai 1885. La République lui organise des funérailles nationales au Panthéon, dont les cérémonies seront suivies par des centaines de milliers de personnes.
Terminons ce reportage par une lecture un extrait des Misérables.
Un soir d'octobre 1815, un homme épuisé et affamé entre à pied dans la ville de Digne. Chassé des auberges, Jean Valjean a perdu tout espoir de trouver un lit pour la nuit lorsqu'il frappe à la porte d'une maison. En entrant, il annonce :
Vieil Jean, sache-le, je suis un forçat. J'ai passé 19 ans au bagne de Toulon. À ces mots, son hôte, Monseigneur Myriel, fait rajouter un couvert et sort deux beaux chandeliers d'argent. Au matin, le forçat s'enfuit après avoir volé son bienfaiteur.
J'adore.
Et maintenant, place à un autre grand personnage de la culture française, Charles Aznavour.
Écoutons tout d'abord nos reporters qui vont nous parler de sa carrière.
Bonjour, bienvenue dans la rubrique musicale. Aujourd'hui, Charles Aznavour.
Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris, alors que ses parents arméniens attendaient un visa pour partir aux États-Unis. Comme il est né, ses parents n'y sont pas partis. Pendant son enfance, son père avait un restaurant où il y avait souvent des musiciens. Sa mère aimait souvent faire des spectacles avec son père et ses amis pour la communauté arménienne. Il était donc en contact avec un environnement musical et artistique. Étant petit, il a fait beaucoup de théâtre.
Après la guerre, il rencontre Pierre Roche, un pianiste. Avec lui, il compose plusieurs chansons. Il rencontre aussi Edith Piaf, une grande chanteuse française, et écrit pour elle. Il partira en tournée avec elle et les compagnons de la chanson entre 1947 et 1948, aux États-Unis. Puis après, il ira s'installer au Québec avec Pierre, où ils chanteront lors de concerts. Ils seront populaires outre-Atlantique.
Puis, il retourne en France, où il se fait critiquer parce qu'il n'avait pas assez une belle voix. Mais Piaf, qui savait que Charles avait du potentiel, le motive pour faire une carrière solo, et décide de mettre Charles dans sa tournée d'été. Après un récital en 1956 à Casablanca, c'est le début de la gloire. Puis, en 1960, sa carrière prend définitivement son envol dans une salle de music hall à Paris appelée l'Alhambra, où il chante « Je me voyais déjà ».
Au cours des années 1960, il enchaîne les tubes. Les comédiens, la mama, et pourtant, hier encore, Formidable, La Bohème, Emmenez-moi et Désormais. Le 30 mars 1963, Charles Aznavour donne une représentation unique au Carnegie Hall de New York, considéré comme le véritable lancement de sa carrière internationale.
En 1988, après le tremblement de terre en Arménie, Charles Aznavour créa la fondation Aznavour pour soutenir son pays d'origine. Pour apporter de l'argent aux Arméniens, il enregistre avec 80 artistes une chanson qui s'appelle « Pour toi, Arménie ». 10 ans plus tard, il revisite ses anciens succès en leur donnant une couleur jazz sur l'album « Jaznavour ». Et les lecteurs du Time les lisent « Artistes de variété du siècle » devant Elvis Presley.
Au printemps 2005, Charles Aznavour amorce une tournée d'adieu. Durant cette tournée, le concert donné dans son pays d'origine rassemble plus de 100 000 spectateurs. Le 26 décembre 2008, le président de la République d'Arménie lui donne la citoyenneté arménienne. En février 2009, il accepte le poste d'ambassadeur d'Arménie en Suisse où il réside. Il est également le représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève.
En 2010, il reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En avril 2012, il se produit à la Maison symphonique Montréal ainsi qu'au Capitole de Québec. En 2014, il entreprend pour ses 90 ans une tournée mondiale.
Pendant ses 80 années de carrière, Charles Aznavour a créé plus de 1200 chansons, chanté dans 8 langues et a joué dans 60 films. C'est un grand artiste franco-arménien. Aujourd'hui, plus de 180 millions de disques ont été vendus à travers le monde. Il n'est pas facile de résumer cette carrière extraordinaire. Alors, quittons-nous en chanson et emmenez-moi.
Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ d'abord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Nous avons eu une chance inouïe. Le grand Charles était à Dubaï et nous avons pu le rencontrer.
Ce fut un grand moment pour notre radio. Place à la magie.
Nous sommes en direct du Royal Mirage, où nous avons l'honneur et le privilège d'être en compagnie d'un grand monsieur de la chanson française. Monsieur Aznavour, mille merci de nous accueillir pour cette interview exceptionnelle. Que vouliez-vous faire enfant ?
Moi, je voulais être acteur. Seulement acteur, pas chanteur. Et puis, les choses se sont arrangées autrement, puisque je suis tombé dans une revue. Et dans cette revue, il fallait danser, chanter et jouer à la comédie. Et j'ai trouvé que chanter, c'était pas mal non plus. Voilà. Voilà comment ça s'est fait.
D'où puisez-vous votre inspiration pour composer vos chansons ?
L'inspiration, elle est dans l'air. C'est dans ce qui se passe. C'est avoir une bonne vision des choses. C'est de bien comprendre ce que les gens vous racontent, de leur histoire de vie. L'inspiration, elle est partout. C'est pas simplement en prenant un papier blanc et puis en écrivant dessus qu'on a de l'inspiration. L'inspiration, ça travaille du matin au soir et même la nuit. Voilà l'inspiration.
Parmi vos 1200 chansons de votre répertoire, laquelle est la préférée du public d'après vous ?
En ce moment, c'est la Bohème. Depuis longtemps d'ailleurs, c'est la Bohème. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est pareil. Hein. Mes enfants sont mes enfants.
Avez-vous toujours le trac avant de monter sur scène ?
Je n'ai jamais le trac quand j'arrive en scène parce que j'avais le trac quand le public ne venait pas pour moi. Alors je me demandais ce qu'ils allaient penser. Mais maintenant qu'il vient spécialement pour moi, je n'ai plus le trac.
Ambassadeur d'Arménie en Suisse, représentant permanent auprès de l'ONU, acteur, chanteur, auteur et écrivain, pourquoi autant d'occupations ?
J'aime pas m'ennuyer. Et le travail, quel qu'il soit, l'occupation, c'est une panacée contre l'ennui. Et moi, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours une idée en tête, j'ai toujours une chose à écrire ou à apprendre. Apprendre est une chose importante. Moi, je n'ai pas eu, j'ai pas eu de professeur, moi. Parce qu'après le certificat d'études en France, il fallait payer ses études et mes parents n'avaient pas les moyens. J'ai décidé que j'allais m'instruire moi-même. Et ce n'est pas difficile de s'instruire en français. Il y a des choses extraordinaires. On commence avec les Fables de La Fontaine. Et puis avec Victor Hugo, des choses comme « Ô combien de marins, combien de capitaines, vous l'avez appris celui-là » Non, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, vous rencontrez Molière, et puis vous allez au théâtre, vous voyez du Corneille, du Racine. Et puis, voilà. Et puis, tout d'un coup, vous êtes pris dans un engrenage merveilleux où vous connaissez les grands auteurs, les grands écrivains français, car on a vraiment, peut-être les plus grands écrivains du monde, avec les Russes, bien sûr, et les Anglais. Voilà, je crois, les trois... La Grèce, c'est tout à fait différent, mais c'est important. Et puis, tout ce qu'un professeur vous apprend, si vous l'apprenez tout seul, ça vous prend 10 ans. Lui, ça vous prend 1 an. Vous gagnez 9 ans. N'est-ce pas?
Quelle a été votre plus belle rencontre musicale durant votre carrière?
C'est parce que c'était le bonheur de le faire. Ça a été Piaf. Et chez les Américains, ça a été Ray Charles.
Nous avons interviewé Maître Gims la semaine dernière. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération?
Elle est pas mal. Je ne dis pas elle est formidable parce qu'elle est un petit peu trop inféodée à tout ce qui est anglais et qu'elle devrait penser un peu français. Mais ceux qui font du français le font très très bien. Il y en a quand même quelques-uns de formidables. On n'a pas à se plaindre. On a des gens comme Francis Cabrel... Souchon et enfin, ces gens-là sont formidables. Mais dans la jeune génération, ils veulent tous paraître anglais. Ils parlent mal l'anglais, ils écrivent mal en anglais et leur musique n'est pas de la musique anglaise. Alors il faut donner ce que nous avons, nous, à ces gens qui, eux, les Anglais, je dois l'avouer, ils ont une chose formidable, ils sont très intéressés par les textes français. Et c'est un bon échange.
Et pour finir, c'était comment votre CM2?
C'était formidable. Certificat d'études, c'est à mon avis, le certificat d'études en début d'études, c'est ce qu'il y a de plus formidable parce qu'on apprend un peu de tout. Alors moi, j'ai eu cette chance inouïe, un peu d'arithmétique, je compte pas sur mes doigts, hein. Je compte très vite. Un peu d'arithmétique, de la langue française, bien sûr, un peu de géographie, un peu de physique. J'ai eu... un simple de toutes choses comme ça. Et après, quand j'ai définitivement pensé qu'il fallait que je prenne moi-même le taureau par les cornes et que j'apprenne les choses par moi-même, en me rappelant ce que j'avais appris à l'école, j'ai appris beaucoup de choses.
Monsieur Aznavour, merci pour ce moment magique passé en votre compagnie. Continuez de nous emmener au bout de la terre car vous êtes formidable.
Merci.
Arrête de manger ce chocolat.
Tu sais d'où il vient?
Non, je ne sais pas.
Il vient de ce super livre. Tiens, regarde.
Ah, Charlie and the Chocolate Factory. Je le reconnais maintenant.
On va en parler dans la rubrique littérature.
Today we are going to talk about the book Charlie and the Chocolate Factory. The book is written by Rodel and illustrated by Quentin Blake. Rodel was born in 1916 in Wales of Norwegian parts. He was educated in England and went on to work for the Shell Oil Company in Africa. Rodel is one of the most successful children writers.
Quentin Blake is one of Britain's most successful illustrators. His first drawings were published in Punch magazine when he was 16, and still at school. Quentin Blake has illustrated over 300 books and it was Roald Dahl's favorite illustrator. He has won many awards and prizes, including the White Bear Award and the Kate Greenaway Medal.
The story is about a boy named Charlie. He is very poor. He lives next to a mysteriously big chocolate factory that belongs to Mr. Willy Wonka. One day, Willy Wonka decides to open up his factory for 5 children who find the 5 golden tickets he hid in his chocolate bars. The 5 children to eventually find the tickets were Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, Mike TV, and Charlie Bucket. When they enter the factory and explore, all the kids except Charlie get kicked out of the factory, and Charlie gets a big surprise.
This is a small part from the book. That evening, Mr. Bucket's newspaper announced the finding of not only the 3rd golden ticket, but the 4th as well. "Today, 2 golden tickets found today," screamed the headline. "Only 1 more ticket left." Thank you for listening to Radio Cartable Alif Jepe. If you want to know what happens next, you could read the book or watch the film. We hope you liked it and see you next time.
Ce livre me pose plusieurs questions dans ma tête.
Je connais plusieurs personnes qui aiment poser des questions aux autres. Tout de suite, micro-trottoir.
Bonjour, quel est votre endroit préféré à Dubaï et pourquoi ?
La plage, parce que on peut se détendre avec les parasols, comme ça le soleil ne nous gêne pas et on peut se baigner, il y a l'air frais.
Bonjour Lara, parce qu'il y a des restaurants dedans, c'est bon, et c'est à côté de la plage. Et j'aime parce que c'est un endroit bien et calme.
La Burj Khalifa, parce que j'aime bien visiter à l'intérieur.
Alors le désert, parce que j'aime m'y retrouver le calme et admirer le coucher du soleil.
Mon endroit préféré à Dubaï est la crique et le souk, parce que c'est l'endroit le plus ancien et il y a beaucoup de vie dans cet endroit.
Est-ce que vous en avez d'autres ?
La plage, pour bronzer.
Merci.
Bonjour, quel est votre endroit préféré à Dubaï ?
L'école, bien sûr.
Et est-ce que vous en avez d'autres ?
J'aime bien Bab al-Sham.
Wild Wadi, parce que il y a des toboggans qui sont... C'est les toboggans les plus mieux de Dubaï.
Mon endroit préféré à Dubaï est Bashan Mall, car là-bas il y a des malls et ils sont très très bien. Il y a plein de gens et il y a plein de choses très très jolies.
Le zoo dans la Inde, car on a vu plein des animaux qui sont très bien.
Mon endroit préféré, c'est la plage de Kite Beach, parce que c'est très animé, j'aime aller à la plage et j'aime beaucoup la promenade qui a été construite depuis quelques années.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est Dubai Mall, car c'est un mall très large et très amusant et il y a plein de magasins.
Je suis content quand je pars là-bas.
J'aime Global Village parce que des pays et c'est magnifique et j'aime aller là-bas. C'est amusant, tu peux acheter des choses et il y a un spectacle là-bas et c'est tout.
Alors mon endroit préféré à Dubaï, c'est le désert, parce que c'est le premier pays que je fais où je peux aller me promener dans le désert et je trouve que c'est magnifique. Les paysages sont superbes, les couchers de soleil éblouissants, voilà.
Merci bien, au revoir.
Bonjour, quel est ton endroit préféré à Dubaï et pourquoi ?
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est Atlantis, parce que tu peux t'amuser, faire des toboggans et tout pendant toute la journée.
Alors, mon endroit préféré à Dubaï, c'est un endroit où on peut se rendre avec toute la famille pour se détendre, prendre le soleil, se baigner. Donc, mon endroit préféré à Dubaï, c'est la plage.
Quel est votre endroit préféré à Dubaï et pourquoi ?
Mon endroit préféré à Dubaï est le Safa Park parce que il fait toujours beau, bizarrement, quand on y va. Et on peut y aller en famille. Il y a des activités.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est à la Burj Khalifa, parce que c'est la plus grande tour du monde. C'est très beau, c'est beau de la voir, c'est beau de rentrer dedans.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est Wal Wadi, car on peut beaucoup s'amuser et j'adore cet endroit.
Mon endroit préféré à Dubaï est ma rue, parce que il y a un parc avec beaucoup de jeux.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est le quartier de Satwa, parce qu'on se sent vraiment en Asie. Et ce sont des rues grouillantes de monde, plein de couleurs, plein de senteurs. Et on est là, très loin du monde occidental.
Merci. Quel est votre endroit préféré à Dubaï ?
Alors, c'est une question difficile à laquelle répondre, mais on a tous plusieurs endroits préférés. Bon, déjà, moi, l'endroit que je préfère, c'est à la maison avec ma famille. Mais si je dois sortir, ce que j'aime le plus, c'est... Bon, déjà, toute l'année, on a accès à la plage. Et ça, c'est vraiment appréciable.
Quel est votre endroit préféré à Dubaï et pourquoi ?
Ski Dubaï.
Parce que on s'amuse là-bas en faisant du ski.
Wafi Mall. Parce qu'il y a une piscine, un club de piscine au top.
Alors, j'aime beaucoup le quartier de Batiskaya. Parce que je trouve que c'est le vrai quartier de Dubaï et c'est très vivant. Il y a le quartier indien, les souks, on peut prendre le bateau sur la crique et c'est un quartier qui m'intéresse beaucoup.
Quel est votre endroit préféré à Dubaï ?
Alors moi, à Dubaï, je préfère le désert parce que c'est calme, il n'y a personne et la nuit, on peut y voir les étoiles.
Le Burj Al Arab, car il y a la plage à côté et on peut se baigner.
Mon endroit préféré à Dubaï est Burj Khalifa parce qu'il y a des fontaines.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est Souk El Bahar quand on arrive le soir avec l'éclairage de la grande tour Burj Khalifa. Voilà.
Mon endroit préféré à Dubaï, c'est d'aller me promener au bord de la crique, de faire des belles balades et d'aller me promener dans les parcs.
Merci.
Merci d'avoir écouté Radio Cartable LFIEB. À la prochaine.